Bien, mesdames et messieurs, puisqu'il me revient cette tâche très agréable au demeurant de clôturer les travaux de cette première partie de la journée, particulièrement riche, il faut le rappeler, et qu'il est habituel en pareille circonstance d'apporter l'une ou l'autre réflexion complémentaire par rapport au sujet du jour, eh bien, permettez-moi aujourd'hui de déroger à cette tradition en vous adressant sans doute un message un peu différent. Un message un peu différent, mais avant de vous livrer ce message, je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous, au nom de la ville de Châtelet, d'avoir participé aussi activement à cette journée. Et je suis certain que la participation de ce soir ne décevra personne. Je voudrais également remercier Françoise Abad-Gonzalez, ici présente, et Jevine à Châtelet, qui nous a fait effectivement le plaisir de nous rejoindre pour, en quelque sorte, décider de braver les intempéries du moment, les intempéries politiques du moment, pour finalement mouiller sa chemise, si je comprends bien. Et je voudrais également remercier en bloc tous les intervenants, et j'en oublierai certainement, pardonnez-moi par avance. Je pense à Marc Leroy, bien sûr, Bernadette Préa, ici à ma gauche, Jacques Gauthier, Christine Sass, Éric Remacle, mais aussi Geneviève Manant, Béatrice Franck, Laurent Cueil-Pers, Barbara Zablocki, Solange Goffin, Armel Verskreuz et Jean-François Germain pour le vidéogramme. Je voudrais aussi que l'on remercie très chaleureusement celles et ceux qui, parfois de façon anonyme mais toujours de façon bénévole, ont donné de leur personne pour d'abord que cette journée puisse se faire et que cette journée soit un succès. Je pense que ce succès est au rendez-vous. Cela étant dit, j'ai volontairement oublié d'associer à mes remerciements une personne que vous connaissez pourtant très bien. Que dire ? Un véritable personnage en soi. Une personnalité autant atypique qu'attachante. C'est vrai que ce vieux baroudeur de l'école de promotion sociale de Châtelet, qui est ici à ma gauche, ne laisse finalement personne indifférent. Alors, pour retrouver la trace de ses premières prestations en qualité d'expert en harmonie vitale par la sophrologie, il aura fallu presque remonter à l'ère précolombienne et procéder à des investigations d'archéologie documentaire. 21 janvier 1994, c'est la date du premier cours de sophro organisé à Châtelet, après une année 1993 qui m'aura permis de découvrir un personnage haut en couleur à l'époque, certes passant pour un original, mais cette année 1993 m'aura également permis d'apprécier son acuité intellectuelle et son indépendance d'esprit. Pendant près d'un an, en effet, nous nous sommes attelés à élaborer ce qui deviendra le premier programme de cours et qui sera par la suite diffusé dans de nombreuses écoles de la communauté française de Belgique. Le mentor intellectuel des cours d'harmonie vitale par la sophrologie était-il ou non conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il allait ensuite advenir de sa production, cette question mériterait à elle seule une thèse. Quoi qu'il en soit, en œuvrant de la sorte, et ici je reprends un petit peu mon sérieux, je pense qu'une voie nouvelle était bel et bien tracée à Châtelet, mais aussi en promotion sociale en général. Pour la première fois, en effet, un programme de cours s'adressant à une formation pour adultes, voyait le jour et mettait en avant des objectifs de développement personnel et de quête du bien-être. Démarche osé pour l'époque, mais ô combien visionnaire. En effet, je crois qu'il n'est pas exagéré aujourd'hui de prétendre que cette quête du bien-être ou du mieux-être est partout, y compris dans notre champ professionnel. Il n'est pas davantage exagéré de relever cette récente prolifération de formations intégrant désormais cette pédagogie de l'apprentissage du bien-être. Hier et aujourd'hui, on parlait d'harmonie vitale par la sophrologie, de réflexologie plantaire, de programmation neurolinguistique, d'approche systémique ou d'analyse transactionnelle. Demain, très rapidement, nous parlerons sans doute d'aromathérapie, de diététique orientée ou d'hypnose ericksonienne. Mais tracer une voie n'était cependant peut-être pas suffisant pour absorber toute l'énergie de ce bouillant professeur. Encore fallait-il, sur un plan privé, qu'il multiplie les démarches en vue de faire mieux connaître, faire reconnaître et protéger une discipline naissante. Ainsi est née notamment la Ligue belge des sophroconseillers, dont une des missions, je tiens à le préciser quand même, consiste à informer et mettre en garde le grand public par rapport au risque de dérive professionnelle et d'arnaque à la formation. Alors, au travers de rencontres multiples, au départ de participations nombreuses à des colloques, salons et autres manifestations institutionnelles, Henri, c'est son prénom, s'est dépensé sans compter. Parce qu'il n'a jamais cessé d'y croire, il continue à se former à l'aube de ses 65 printemps. Aussi, après un demi-siècle de sophrologie, on l'a déjà dit, après avoir vu défiler plus de 500 personnes qui ont terminé le cycle chez lui, eh bien, mesdames et messieurs, moi, je vous propose aujourd'hui tout simplement de vous lever. De vous lever et de rendre un hommage particulier au travail de M. Henri Ballan pour toutes ces années de travail acharné et de conviction profonde. Merci, M. Ballan.